L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Radio-Okapi. Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Envoyez vos SMS et messages audio sur WhatsApp au 099 706 99 40. Bienvenue également sur la page Facebook du magazine Okapi Service.
Bienvenue dans cette seconde partie du magazine Okapi Service consacrée à l'importance de la vaccination contre la COVID-19. C'est depuis le lundi dernier que le ministère de la Santé publique a lancé la campagne de sensibilisation de la population congolaise sur l'importance de la vaccination contre le coronavirus en RDC. Ce sont les personnels soignants, les patients souffrant des maladies chroniques telles que les diabètes et le VIH-SIDA, l'hypertension artérielle et les personnes de plus de 55 ans qui sont concernés par cette campagne de vaccination contre la COVID-19 qui débute en principe les 15 de ces mois. Quelle est l'importance de la vaccination contre le coronavirus? Pour en parler, nous avons au bout de fil docteur Mouvoudi Michel. Bonjour docteur.
Bonjour monsieur Tati. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous faites partie de l'équipe de la campagne des sensibilisations sur l'importance de la vaccination contre les coronavirus. D'entrée de jeu, c'est depuis le lundi dernier que les programmes élargis de vaccination et l'équipe de la campagne de riposte contre les coronavirus ont commencé à sensibiliser la population sur l'importance de se faire vacciner contre le coronavirus. Comment se déroule cette campagne?
Alors, il faut dire que cette campagne se déroule bien. Vous le savez, au-delà des défis logistiques, des défis techniques, on le savait depuis le début de cette pandémie qu'on avait en fait affaire à aussi un défi d'ordre communicationnel. Mmh. Déjà, la maladie elle-même, M. Tati, vous savez, plusieurs personnes n'y ont pas cru au début. C'était pas facile que les gens comprennent qu'il existait justement la pandémie de la COVID-19. Et lorsque on a annoncé les stratégies des luttes, on avait dit qu'il fallait absolument penser aussi à la vaccination, comme ce fut le cas dans des autres pandémies comme la tuberculose en 1921, etc., etc. Alors, on s'y est mis un peu plus tôt, il faut avouer, pour pouvoir justement à obtenir l'acceptation sociale de la population. On sait qu'on ne va pas forcer les gens à être vaccinés. La meilleure façon, c'est de pouvoir apporter la bonne information. Parce que, comme je l'ai dit, la vaccination reste un outil très important pour mettre fin à la propagation du coronavirus. Alors, à ce stade, on travaille vraiment avec toutes les parties prenantes. Donc, nous avons mis en place une approche à base communautaire principalement, où nous allons travailler avec des relais communautaires, des organisations civiles communautaires. Nous travaillons avec les zones de santé. Nous impliquons tous les canaux possibles qui peuvent nous aider à faire passer les messages. Il faut dire que ça nous permet justement de rencontrer les questions de la population. C'est ce qui est bien. Parce que comme vous le voyez, il y a assez d'informations tordues autour de cette vaccination.
Oui.
L'idée, c'est de rencontrer les préoccupations de la population, d'écouter ce que les gens ont entendu et de corriger ce qui est mal compris. Et c'est ce travail que nous faisons et ça va demander justement que tout le monde s'y implique pour qu'on arrive à des bons résultats et qu'on mette fin à la propagation du coronavirus.
Docteur, est-ce que c'est vraiment important de se faire vacciner contre le coronavirus? Et est-ce que je peux avoir une idée sur la qualité de ces vaccins qui est arrivé ici en RDC? Parce qu'il y a aussi beaucoup de lésions dites sur la qualité de ces vaccins qui est arrivé ici. Il y a des sources qui disent qu'au mois de juin, ça sera expiré.
Alors, deux bonnes questions. D'abord, l'importance. Je crois qu'il n'y a pas de débat. L'avantage de la vaccination, monsieur Tati, c'est que la vaccination vous permet d'être déjà armé. Le principe est simple, on vous injecte soit une protéine tirée du virus, soit on vous injecte le virus atténué et vous sécrétez au préalable les anticorps. Donc, on stimule votre immunité. Ça fait que Si demain vous êtes en contact avec le virus, vous vous défendez. Donc c'est la meilleure façon qui permet d'éviter à ce que les gens ne tombent malades. Donc c'est vraiment un moyen préventif et c'est d'ailleurs la vaccination qui a permis d'éradiquer beaucoup de maladies qu'on a connues dans l'humanité. Donc ça c'est vraiment important. Donc quand vous regardez la manière dont cette pandémie est en train d'évoluer, vous vous rendez compte justement que c'est important d'être vacciné, surtout pour les cibles concernées. Et là, c'est important de souligner que c'est pas tout le monde qui va être vacciné. Donc, vous avez très bien en introduction cité les cibles, parce que ce sont ces personnes qui sont le plus exposées et qui ont développé des formes graves de la maladie. Donc, on va commencer avec ces personnes-là. Il faut même préciser qu'en RDC, c'est 4 provinces qui commencent. C'est la ville-province de Kinshasa, c'est le Congo central, le Nord Kivu et le Haut-Katanga. Parce que ces 4 provinces, à elles seules, elles regorgent plus de 90% de cas. Donc si on arrive à vacciner dans ces provinces, on va diminuer drastiquement la propagation du virus. Donc c'est vraiment important, pas seulement en tant que personne, mais aussi au plus on est nombreux à être vaccinés, on développe cette immunité collective et ça nous permet justement d'être tous protégés. Ça c'est ce que je vais devoir envoyer comme message dans la population, c'est de dire la vaccination est très importante, et c'est pas la première fois que nous vaccinons en RDC, elle est très importante contre la propagation du coronavirus. Maintenant, sur la qualité, il y a deux points. Le premier point, d'abord, c'est le vaccin lui-même. Il est arrivé, vous savez, le dimanche passé, le chef de l'État a visité le site de Kinkole où on a stocké le vaccin. C'est un vaccin AstraZeneca qui se conserve à des températures qui vont nous permettre de ne pas être buté à ce challenge de logistique parce que c'est un vaccin qui se conserve entre 2 et 8 degrés Celsius. C'est la température à laquelle on conserve les autres vaccins. Donc logistiquement, c'est très 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 bien. On l'a gardé à Kinkole, c'est en fait un hub de conservation des produits de santé, y compris les vaccins. On a des chambres froides de grande capacité, donc c'est très bien gardé. Et toute une équipe travaille sur la chaîne d'approvisionnement pour que ce vaccin, du point de départ, qui est en fait le hub de Kinkole, c'est à Kinshasa, jusque là où on va l'administrer en province, qu'on soit rassuré que les conditions de conservation sont assurées. Et là, nous allons beaucoup compter sur l'expérience du PEV. Le PEV en RDC, c'est l'un des programmes qui a démontré des capacités de vaccination vraiment éprouvées. On l'a vu avec la rougeole, la polio, la fièvre jaune. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va vacciner. Donc, nous allons compter sur cette plateforme qu'on est en train de renforcer pour que le vaccin soit vraiment de qualité. Maintenant, sur la question de la péremption, ce qu'il faut savoir, monsieur Tati, c'est que tout médicament a ce qu'on appelle une demi-vie. Donc, tout produit a une validité. Le problème n'est pas de dire qu'il expire en juin. Vous savez, par exemple, les tests de grossesse, quand on les fabrique, leur durée n'est pas trop longue. En fait, ce qui est important, c'est les utiliser dans le temps imparti. Si vous prenez les 1,7 million doses qu'on a données, regardez par rapport à la population cible, mais c'est en un jour si vous devez vacciner toutes ces personnes qui se terminent. Donc, regardez même le calendrier vaccinal. Lorsqu'on vous donne le vaccin, vous devez attendre entre 4 et 12 mois pour prendre la deuxième dose. Mais vous serez justement avant juin. L'idée, ce n'est pas d'effacer ces dates-là. Et donc, toutes les mesures vont faire en sorte que l'on conserve, l'on donne ce vaccin avant la date de péremption. Et donc, avant la date prévue de péremption. Et avec la quantité qu'on a, par rapport à la cible, ces vaccins vont se consommer, je pense, même avant le début du mois de juin.
Une autre question concernant la qualité du vaccin, docteur. Et on a vu des vidéos hein, sur les réseaux sociaux où les gens argumentaient sur ces vaccins-là qu'on a mis en place pour décimer la population mondiale. Est-ce que c'est vrai?
Non, non. D'abord, la réponse que je donne à ces genres de messages, c'est que on a vacciné plusieurs fois dans ce pays, dans le monde. Pourquoi attendre seulement maintenant pour mettre un élément ou un produit qui va tuer le monde ou tuer les Africains, comme on le dit? C'est faux. Monsieur Tati, il faut vraiment que les gens comprennent que la RDC, nous avons toute une autorité de régulation. Et ce processus est aussi suivi par l'OMS. Et la vaccination a déjà commencé dans beaucoup de pays. On ne sera pas le premier pays à commencer la vaccination. Au Sénégal, ils ont commencé. Au Ghana, ils ont commencé. En Côte d'Ivoire, ils ont commencé. En Afrique du Sud, ils ont commencé. Je pense que vous suivez ces pays-là. On ne voit pas des morts telles qu'on est en train de le dire.
Oui, mais on a par contre vu, hein, des vidéos sur les effets secondaires de ces vaccins.
Exactement. Je veux revenir sur les effets secondaires. C'est très important de d'édifier nos auditeurs. Deuxièmement, c'est que En fait, on sait déjà que la maladie elle-même, même pas le vaccin, M. Tati, c'était un sujet à controverse. Moi, je ne veux pas encore une fois de plus qu'on puisse distraire la population. Quand la pandémie a commencé en RDC, il y a des gens qui se sont levés pour dire aux autres, cette maladie n'existe pas. Malheureusement, il y a des vies perdues à cause de la COVID-19. Il y a des gens qui sont décédés. Moi, je connais des couples perdus, enterrés à cause de cette maladie. Donc, encore une fois de plus, on ne peut pas être là en train de discuter alors que la pandémie continue, nous enregistrons des morts et il faut aller vers la vaccination pour arrêter cela. Donc, cette nouvelle-là, elle n'est pas vraie. Elle me rappelle le début de la pandémie quand les gens disaient que la maladie n'existait pas. Encore une fois, les gens reviennent en train de dire des choses comme ça. Il faut décourager ce genre d'informations et j'appelle la population à ne pas accepter. Parce que on a vu à un moment donné que les gens ont compris que la maladie existait et même les molécules qu'on donnait, les gens commençaient à en chercher. Donc, ne ratez pas de te vacciner parce qu'après, vous allez chercher la dose de vaccin, vous n'allez pas l'avoir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément sur les effets secondaires, M. Tati, il faut comprendre que tout médicament a un effet secondaire. Vous prenez la quinine, vous avez des vertiges, vous avez des bourdonnements d'oreilles. On va vous dire, asseyez-vous, reposez-vous. La chloroquine qu'on donnait pour traiter la COVID-19, il y a des gens qui s'est gratté. Il y a des gens qui disaient, je ne supporte pas, j'ai des palpitations. Notez que tout médicament en tant que produit de santé peut entraîner des effets secondaires. Les vaccins y compris. Je prends l'exemple simple. Nous donnons le vaccin contre la rougeole. Nous savons qu'il y a des enfants chez qui le vaccin peut donner la fièvre. Nous informons les mamans en disant, le soir, l'enfant peut développer la fièvre, donner à l'enfant un comprimé de paracétamol. Donc, les vaccins ont des effets secondaires. Je peux vous partager les quelques effets secondaires de l'AstraZeneca. Il y a les douleurs, il y a les prurites, il y a des effets qui sont connus pour lesquels nous allons former le personnel de santé et pour lequel nous allons leur donner des médicaments qu'on appelle les adjuvants pour que si quelqu'un développe des maux de tête, si quelqu'un développe une sensibilité, on traite cela. Ça existe avec tous les vaccins, tous les médicaments. Vous avez compris? Maintenant, nous avons aussi mis en place un système de surveillance. Il est dit dans le protocole, lorsque vous vaccinez quelqu'un, vous l'observez pendant 15 minutes et s'il développe un effet secondaire, nausée, il commence à se gratter, voilà le médicament qu'il faut donner. Et nous allons suivre ça et documenter. Donc il ne faut pas que les gens puissent, puissent mordre cette question d'effets secondaires en disant, parce qu'il y a des effets secondaires, on ne va pas prendre le vaccin. Non, on a tous les vaccins que nous donnons ont des effets secondaires, mais ces effets secondaires aujourd'hui sont mineurs et sont gérables par un personnel de santé formé.
Docteur Michel Mouvoudi, nous rappelons que vous êtes membre de l'équipe de la campagne de sensibilisation sur les vaccins contre le coronavirus, mais il y a également des sources qui disent que la population africaine est utilisée comme cobaye dans le cadre de ces vagues de vaccination en Afrique. Est-ce que c'est vrai?
Alors, M. Tati, quand on parle de cobaye, ça veut dire que vous êtes le premier à être vacciné. Ce qui n'est pas le cas. La vaccination a commencé aux États-Unis, elle a commencé en Europe. On n'est pas cobaye. On serait cobaye dans la mesure où c'est nous qui serions les premiers à être vaccinés. Mais au moment où nous parlons du lancement de la vaccination en RDC, ça veut dire le lundi, mais il y a des myriades de pays qui ont déjà commencé, y compris les pays en dehors de l'Afrique. En quoi est-ce que nous, on devient cobaye si les autres pays ont déjà commencé? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que il y a des pays africains avec lesquels on discute pour comprendre comment la dynamique se passe. Je discute avec des collègues médecins qui sont au Sénégal, des collègues médecins qui sont en Côte d'Ivoire. Mais non, la dynamique est bonne, la population se fait vacciner, on suit les effets, ainsi de suite. Donc, il faudra pas encore une fois de plus qu'on revienne encore à ce débat sur la maladie elle-même, quand on disait, voilà, la COVID-19, c'est une maladie inventée pour tuer les Noirs. Oui, mais d'ailleurs, ça ne tue pas les Noirs, ça tue les Chinois. Ce débat-là nous a perdu du temps et on a perdu des vies. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons un vaccin testé, efficace, que nous allons utiliser. Travaillons pour que ce vaccin soit donné afin de diminuer la propagation du coronavirus. Je crois qu'on a pris un an et c'était suffisant en une année parce que la protéine virale de ce virus ici avait déjà été isolée par la Chine en 2020. Nous sommes en 2021, ça fait un an. C'est suffisant déjà pour pouvoir développer et passer les différentes étapes en matière de développement de vaccins. Et comme vous voyez, tous les pays, y compris la Chine, ont lancé la vaccination. Donc il est hors de question de croire que l'Afrique est utilisée comme lieu d'expérimentation parce que la vaccination n'a pas commencé en Afrique. Elle a commencé déjà ailleurs.
Si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-6394 et au numéro 099-706-6394. Nous avons déjà deux auditeurs au standard.
Radio Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Envoyez vos SMS et messages audio sur WhatsApp au 099 706 99 40. Bienvenue également sur la page Facebook du magazine Okapi Service.
Monsieur Jean-Pierre, vous intervenez depuis Mikalaï. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité concernant les vaccins contre le coronavirus?
Bonjour, cher Kadir. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Ma question, vraiment, c'est la vaccination a une grande importance capitale pour la vie ou la santé de la personne, parce qu'elle permet de fabriquer les anticorps, éradiquer définitivement la maladie et renforcer l'immunité. Ma question est la suivante, chère Tati. J'aimerais savoir quelle est la stratégie classique de la vaccination que l'EPEV va utiliser concernant la pandémie à COVID et à coronavirus. C'est ça la question que je pose au docteur Mouvoudi.
Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre. Je rappelle que vous intervenez depuis Mikalaï dans les Kasaï centrales. Allons cette fois-ci à Bukavu pour donner la parole à Monsieur Barnabé. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité concernant l'importance de la vaccination contre la COVID-19?
Merci beaucoup de la parole m'accorder. Je salue vraiment tous les invités de la radio Okapi. Je salue tous les auditeurs partout qui nous suivent en ce net moment. Je suis vraiment la locution de l'invité sur le micro. Alors, il voulait s'apesantir sur l'autorité de régulation par rapport à tout ce qu'on est en train de constater comme spéculation sur les vaccins contre COVID-19. Mais à un certain temps, je voudrais préciser ici que on a toujours eu des services de contrôle sur plusieurs douanes ou plusieurs entrées du pays. Mais on constate toujours après que certains éléments ont déjà passé, on constate qu'il y a eu toujours des erreurs sur le plan du contrôle. C'est pourquoi je voudrais qu'ils puissent nous éclairer quant à ça, puisque à un certain temps, on ne peut pas se dire, bon, c'est vrai, les vaccins des gens dans le pays, on l'a déjà enregistré, et que cela peut vraiment être une conviction sur la population. En cela, je voudrais aussi demander à l'invité maintenant de nous éclairer. Comment la RDC, un pays gras comme la RDC, peut commander les vaccins? Est-ce que nous avions manqué les chercheurs nationaux qui pouvaient se mettre ensemble et nous doter notre propre vaccin, quand bien même la RDC est partie perdre des millions à l'étranger et c'est dur, voilà, on a amené un vaccin qui est en train de créer des paniques dans la population. Puisque ça ne se comprend pas. Il faut qu'ils nous expliquent clairement, puisque ça crée des paniques. Moi qui est ici à Bukavu, on est en train de se dire que vraiment ces vaccins contient vraiment plusieurs conséquences et par conséquent, certains de ces cibles-là, apparemment, ils n'ont pas eu comment est-ce qu'ils peuvent recevoir ces vaccins-là.
Merci beaucoup, Monsieur Barnabé. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Bukavu et votre question concerne, au fait, il aurait fallu s'appuyer sur les recherches locales pour avoir mettre au point les vaccins qui mettra tout le monde d'accord. L'invité aura le temps de répondre à votre préoccupation. Alors cette fois-ci à Louisa pour donner la parole à Monsieur Marcel. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Tati.
Allez droit au but. Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité concernant l'importance de la vaccination contre la COVID-19?
Merci beaucoup, M. Tati. Je ne peux pas commencer sans en dire bonjour à votre invité que le docteur vous dit que je connais personnellement. J'étais en train de dire, M. Tati, que c'est tout ce que vous entendez comme question, c'est dû, n'est-ce pas, à différentes déclarations que nous avons eues à apprendre. C'est ainsi que je voudrais dire que mon peuple périt par manque de connaissances. Il aurait fallu que maintenant, pour cette fois-ci, que l'on puisse vulgariser cette information pour montrer réellement l'importance de ces vaccins. Mais je voudrais dire un peu, demander à docteur pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Maintenant, là, ce qui sème les deux. Récemment, on a dit que la dernière française résidait les autres en Afrique, soit en République démocratique du Congo. Et au fil des temps, la tendance a été inversée. Quelle réaction, lui, en tant que chercheur dans les domaines, peut-il donner pour que la population congolaise puisse, bien entendu, avaliser déjà les recherches? Et en plus, je revenais sur la question peut-être du précédent intervenant qui a dit quel est l'apport de nos chercheurs que nous avons propulsés maintenant ici par rapport à ces vaccins. L'ont-ils également avalisé? Merci beaucoup et bonne journée.
Merci beaucoup, monsieur Marcel. Votre voix est altérée aujourd'hui, je ne sais pourquoi. Retournons cette fois-ci à Kinshasa pour donner la parole à monsieur Chico. Bonjour Chico, allez droit au but. Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Oui, bonjour. Bonjour aussi à l'invité du Thermovoot que j'ai salué en passant.
Allez-y.
Oui, je pense que c'est avec attention que j'avais suivi votre invité, monsieur Tati. J'ai beaucoup aimé son intervention. Effectivement.
La liaison n'est pas bonne avec Chico Bassa. Il a plu ce matin à Kinshasa et les lignes téléphoniques ne sont pas très bonnes. Nous retournons vers notre invité, docteur Michel Mouvoudi. Qu'est-ce que vous avez à dire à notre premier auditeur hein, qui a intervenu de Mikalaï, qui a parlé de l'importance de la stratégie mise en place hein, pour sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination?
Exactement. Donc, je merci d'abord à Jean-Pierre, Barnabé, et je crois Martin ou Marcel de l'USA. Je les salue aussi en passant. Donc, par rapport à la question de Jean-Pierre, je crois qu'il voulait avoir une précision sur la stratégie de vaccination. En fait, pour rappel, parce que cette émission aussi est à visée pédagogique, on vaccine soit en stratégie fixe, ça veut dire que les gens viennent au centre de santé. On peut vacciner ce qu'on appelle une stratégie fixe avancée, c'est que les équipes se déplacent pour aller quelque part, mettre un site et vacciner. On peut vacciner en stratégie porte-à-porte, ça veut dire qu'on passe de maison en maison et on vaccine. Alors, ce sont des stratégies qu'on utilise généralement dans le PES, mais dans le cas d'espèce, la stratégie utilisée sera la stratégie fixe. Ça veut dire que la vaccination va se faire au niveau des formations sanitaires, au niveau des centres de santé, au niveau des hôpitaux, pour que l'on puisse justement avoir un suivi sur les effets secondaires. Parce que si quelqu'un, par exemple, commence à avoir des nausées ou si quelqu'un, comme ce sont des piqûres et comme c'est une première vaccination, on aimerait bien que ça se passe en milieu hospitalier pour un contrôle. Et peut-être pour information, à Kinshasa, on a retenu plusieurs sites où ces vaccinations vont se faire, c'est notamment les cliniques universitaires, la clinique Galiema, le SEMKA, le Mungole, c'est l'hôpital sino-congolais, c'est Vidjana, Saint-Joseph, Eshi Hospital, médecin de nuit, le centre médical Diamant, l'hôpital des Nations Unies. Il y a une liste qui a été envoyé, où on va commencer par vacciner. Donc, ça veut dire c'est là qu'on va vacciner, après on va s'étendre. Alors, Barnabé, je crois qu'il a touché une question très pertinente sur laquelle, moi, j'ai discuté depuis très longtemps avec les auditeurs, c'est la question de la régulation. Alors, il faut qu'il différencie deux choses. Hein. Il y a ce qu'on appelle l'autorité de régulation du médicament. En fait, c'est la direction pharmacie-médicament, en fait, qui donne ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché lorsqu'un médicament a suivi le protocole normal et arrivé justement à prouver son efficacité et son assurance par rapport à la santé de la population. Ça, c'est la DPM qui octroie ce document-là. C'est autant pour les médicaments, autant pour le vaccin. Et dans le cas d'espèce pour le vaccin, au-delà déjà du dossier qui avait été suivi par l'OMS, l'autorité de régulation a aussi eu accès au dossier du vaccin candidat que nous avons ici pour s'assurer que ces étapes ont été suivies. Ce qui est à différencier, deuxièmement, de ce qu'on appelle le contrôle au niveau des portes d'entrée. Notamment, c'est assuré, entre autres part, un programme du ministère, en fait, c'est le programme d'hygiène aux frontières qui contrôle aussi les produits qui entrent, mais aussi l'OCC. Et donc, c'est aussi un contrôle un peu, si vous voulez, extra-sectoriel par rapport à la santé. Et là, il a raison, hein, on a des déficits quand même sur le contrôle au niveau des points d'entrée. C'est comme ça que des études montrent, par exemple, qu'en RDC, on a plus de 80% de médicaments falsifiés en général. Mais dans le cas d'espèce pour la vaccination, pour ce vaccin a suivi toutes les étapes et a été suivi notamment par le gouvernement et l'OMS jusqu'à ce qu'il est arrivé en entrepôt ici à Moukolé. Donc, on veut assurer notre population que ce vaccin est bel et bien correct, il est bel et bien bon, il est conservé dans des très bonnes conditions. Donc, que Barnabé ne puisse pas se faire de soucis, mais ce qu'il évoque comme problématique, c'est un dossier sur lequel on doit travailler, notamment en termes d'entrée des médicaments, en termes d'entrée des produits de santé au niveau des points de que nous connaissons.
Il a aussi voulu savoir oui. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais ne s'est pas appuyé sur l'apport de chercheurs locaux pour mise au point du vaccin.
Je reviens à ça. Ouais. Exactement. Je passais justement à ta deuxième question. C'est aussi une question qui a été recoupée par notre ami Marcel
Deluisa.
Exactement. Sur la question des chercheurs, il faut comprendre d'abord, chers amis, ici, que la recherche coûte l'argent. D'accord ? Vous devez le savoir. Regardez les budgets que les autres pays allouent à la recherche, c'est des budgets énormes. Ça, c'est très important. Et si vous voyez ce que la Russie a mis pour pouvoir développer le vaccin, ce que la Chine a mis pour développer le vaccin, c'est de l'argent. Malheureusement, et ça, c'est un plaidoyer que nous faisons, notre pays ne met pas suffisamment d'argent dans la recherche. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la RDC regorge justement des chercheurs. Nous avons des bons chercheurs. On l'a vu d'ailleurs avec les tentatives sur certaines molécules, notamment le manacovid et autres, on a vu qu'il y a quand même des chercheurs congolais qui ont des potentiels à pouvoir proposer des solutions. Pas seulement en RDC, on l'a vu aussi en Guinée, j'ai vu ça au Cameroun. Mais encore une fois de plus, ces personnes-là demandent d'être appuyées. Et pour les appuyer, ce n'est pas seulement leur dire courage, hein. Il faut avoir des infrastructures, il faut avoir des laboratoires. Il faut justement mobiliser beaucoup d'argent pour y arriver. Et si vous regardez comment ça se passe, selon le protocole, avant même de lancer une fabrication de vaccins, mais il y a déjà l'infrastructure, il y a l'équipement qu'il faut avoir et ça demande suffisamment d'investissement. Ceci dit, ce qu'il dit est vrai. Avec le long terme, nous devons aussi nous dire ce qui est arrivé avec la COVID-19, c'est aussi un appel à investir dans la recherche locale. Et je pense que les pays qui ont investi dans la recherche aujourd'hui, ces pays vont avoir des retours d'investissement parce que en vendant le vaccin, ils ont des capitaux pour leur pays, pour leur économie. Pourquoi ne pas aussi commencer à encourager la recherche locale et soutenir les chercheurs locaux? Ça, c'est vraiment mon plaidoyer et il a raison, Barnabé. Mais pour le cas d'espèce, pour le moment, nous n'avons pas justement des plateformes efficaces, nous n'avons pas suffisamment d'équipement, suffisamment de moyens pour le faire. La santé, déjà même, quand vous regardez en termes de budget qu'on alloue, il est très faible, c'est 4% seulement du budget total. Donc, mais sinon, ça reste une demande, ça reste une piste que nous devons meubler, que nous devons capitaliser pour les futurs. Alors, et sur la question des variants, par rapport à la question, à la deuxième ou à la première question de Martin, justement, quand vous êtes en santé, retenez toujours une chose. En santé, il y a ce qu'on appelle les déterminants de la santé. Donc, vous avez vu, par exemple, la chloroquine. Nous l'avons utilisée en RDC. Le professeur Kayembe, il a d'ailleurs partagé des données qui montrent que sur certaines formes de COVID-19, la chloroquine est efficace. Ce qui n'était pas le cas avec beaucoup de pays en Europe. Ils ont dit non, carrément, on arrête, nous, la chloroquine. Donc, le comportement d'un médicament est aussi corrélé par les déterminants démographiques, par les déterminants sociaux, par plusieurs déterminants. Donc, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est que on a vu qu'il y avait des variants. Et les variants étaient très dominants. Et c'est ce que je suis en train de dire ici. En RDC, tout en continuant les recherches, on s'est rendu compte que les variants ne sont pas autant dominants qu'en Afrique du Sud. Donc, ce contexte-là de l'Afrique du Sud n'est pas à copier-coller au contexte de la RDC. C'est deux contextes différents. C'est comme ça, malheureusement, en santé publique. Vous ne pouvez pas dire « ça marche au nord, ça va marcher au sud ». Non, chaque contexte peut avoir des déterminants qui explique pourquoi ça réussit, pourquoi ça n'a pas réussi. Et dans le cas d'espèce, pour ceux qui posent la question sur les variants, ils doivent retenir qu'en RDC, les variants ne sont pas dominants. C'est comme ça que nous pensons que ce vaccin va bien se comporter. Mais cela ne nous exclut pas à continuer à suivre. C'est comme ça que Tati, vous allez voir que dans tous les centres où nous allons vacciner, on aura des protocoles, on aura des fiches de suivi pour que nous puissions récolter le maximum de données afin de documenter ce qui se passe et éventuellement adapter nos stratégies pour qu'on atteigne le résultat escompté.
Docteur Michel Mouvoudi, est-ce que ce vaccin est payant ou gratuit?
Le vaccin est gratuit, Monsieur Tati. Et là, la bonne discussion que nous avons, c'est aussi faire en sorte que si quelqu'un vient, par exemple, se faire vacciner et qu'il a une douleur au point d'injection, que cela demande un autre médicament comme de l'aspirine, nous sommes justement en train de mettre en place des kits gratuit pour pouvoir prendre aussi en charge des effets secondaires comme la douleur au point d'injection, comme la sensibilité, comme la nausée, ainsi de suite. Donc, encore une fois de plus, nous allons essayer de faire en sorte que la vaccination soit gratuite. Mais quand on dit gratuit, M. Tati, il faut comprendre que c'est payé quelque part. Parce que généralement, dans notre pays, quand on dit gratuit, on pense que c'est des produits de mauvaise qualité, on pense que c'est ça, ça veut dire qu'il faut s'amuser avec le vaccin. Non, quand on dit c'est gratuit, il y a eu un effort en amont. Le gouvernement, les partenaires ont mobilisé de l'argent parce que le vaccin est payant. Le vaccin demande qu'on le transporte, le vaccin demande qu'on le stocke. Il faut payer les agents vaccinateurs, donc il y a des coûts qu'il faut payer, il y a des coûts qu'il faut supporter pour que ce vaccin soit donné gratuitement. Donc que les gens ne pensent pas que la gratuité veut dire c'est quelque chose que nous avons reçu comme ça gratuitement. Non, le pays s'est engagé avec les partenaires à mobiliser des ressources pour les avoir. Et donc il faut prendre cela en considération. C'est comme ça qu'il faut gérer judicieusement les doses de vaccins que nous recevons parce que quelque part, quelqu'un a payé pour vous pour que ça soit gratuit.
Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-6394, au numéro 081-890-6394.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Capi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
Okapi. Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Envoyez vos SMS et messages audio sur WhatsApp au 099 706 99 40. Bienvenue également sur la page Facebook du magazine Okapi Service.
Donnons cette fois-ci la parole à M. Théophile qui intervient depuis la ville de Kinshasa. Bonjour Théophile, quelle est la question que vous avez à poser à notre invité concernant la campagne de vaccination contre le coronavirus?
Ouais, merci beaucoup chers auditeurs et bonjour docteur, je l'ai suivi aussi. J'ai quelques questions à poser. La première est celle-ci. Ils ont dit que non, le vaccin sera pris seulement aux personnes âgées de plus de 55 ans. Dommage. Donc, les enfants ne sont pas atteignables par le coronavirus. La première des questions. Encore, la deuxième. À quoi bon leur imposer alors des mesures barrières et autres conditions très difficiles? Pourquoi les avaient interdit l'école? Donc, ils veulent finir avec les vieux pour diminuer la popularité, ainsi de rester qu'avec les enfants pour faire un nouveau monde ou comment? Voilà un peu. Parce que moi, je vois c'est la manque d'intelligence face à l'argent. C'est un peu compliqué et dommage devant chez nos autorités. Merci beaucoup.
Je vous en prie, docteur Michel, répondez directement à Théophile.
Alors, très rapidement, Théophile. On commence avec les personnes de plus de 55 ans parce qu'on s'est rendu compte à travers les données épidémiologiques que c'est à partir de cet âge où on a vu des gens développer des formes graves. Encore une fois de plus, c'est une échelle de priorité. Hein? Je vais rigoler un peu avec lui. Parfois à la maison, quand vous avez peu de nourriture, vous pouvez dire « donnez seulement aux enfants, les adultes vont attendre ». Ce n'est pas que les adultes ne peuvent pas manger ou alors donner aux vieillards, les jeunes peuvent attendre. En fait, en termes de priorité, les personnes de plus de 55 ans ont plus de facteurs de risque, ça veut dire présentent plus de formes graves que les enfants. Donc, on commence par cela. Mais cela ne dit pas qu'on ne peut pas un jour penser aussi aux autres. Il faut qu'on comprenne. C'est vraiment une question de priorité, de cible prioritaire. Ça, il faut qu'ils comprennent. Donc, il n'y a pas une raison à dire on ne va pas vacciner les enfants, non. C'est comme ça. Et ça, je reprends la deuxième question. Ayant d'autres couches de la population qui ne seront pas vaccinées, donc qui vont devoir vivre comme maintenant, ces personnes doivent vivre avec comme modèle de prévention les mesures barrières. On ne peut pas donc dire aux gens en disant « maintenant qu'on va vacciner, arrêtons les mesures barrières » parce qu'on n'a pas encore une immunité collective. Ça veut dire les jeunes que vous êtes, si vous êtes infectés, vous pouvez éviter de faire avancer la propagation. Vous allez continuer à respecter les mesures barrières. Donc, il faut qu'ils comprennent ça. Mais l'idée, c'est que la vaccination ne vient pas supprimer les autres mesures. Je prends le cas, par exemple, de lavage de mains. Quand on vous demande de vous laver les mains, même après la COVID, on va continuer à se laver les mains parce que le lavage de mains vous protège aussi contre les maladies diarrhéiques.
Donc il y a des mesures d'hygiène qui vont continuer avec la vie parce que ces mesures peuvent aussi avoir des effets sur d'autres maladies. Encore une fois de plus, on peut aussi avoir plusieurs stratégies de prévention. Il y a des cas où on peut vacciner, au même moment on utilise des mesures barrières pour justement toucher aussi certaines cibles. Donc ce n'est pas exclu.
Merci beaucoup pour ces renseignements, docteur Michel Mouvoudi. Nous restons toujours à Kinshasa. Il y a un autre auditeur qui vient d'entrer en ligne. Il s'appelle Maître Gaston. Gaston, bonjour. Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Bonjour, Tati. Donc, je voulais un peu, pardon en soi, mais je voulais un peu savoir à qui est destiné ce vaccin et où on peut trouver cela. D'abord, la première question. Deuxièmement, quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour que ceux qui sont censés prendre ces vaccins soient convaincus de l'importance, surtout dans leur vie, de ces nouveaux produits qu'il semble que nous sommes obligés de prendre. Et deuxièmement, où faut en trouver, parce que vous savez, il y a des coins ou des provinces où il n'y a même pas de cas où cette maladie n'en fait pas vraiment une grande actualité. Est-ce qu'il y a un coût aussi? Ça, c'est une autre question. Il y a un coût ou un prix à payer pour consommer, pour être en possession, consommer. Quels sont consommer ces produits? Ou une autre question, quels sont les moyens qui sont mis en place pour que ces produits soient vraiment utilisés en bonne et due forme, que ça ne soit pas payé et que ça ne devienne pas aussi un objet où des vies humaines seront sacrifiées. Donc je sais pas. Je pense que je suis devant un expert qui, s'il est à mesure de répondre à certaines questions, il peut le faire. Et pour le reste, c'est un produit qui est arrivé. On va consommer comme tout le monde partout.
Merci beaucoup, Maître Gaston. Allons cette fois-ci à Béni pour donner la parole à Monsieur Mathieu. Bonjour. Et quelle est la question que vous avez à poser à notre invité concernant la campagne de vaccination contre le coronavirus?
Merci. Bonjour, Monsieur Tati. Avant d'arriver à la question, j'aimerais dire que malgré les spéculations qui circulent sur ce vaccin, néanmoins, nous n'allons pas quand même faire comprendre aux gens que la vaccination a une importance capitale parce qu'elle permet à ce que les gens puissent avoir les anticorps dans leur corps, mais aussi ce vaccin c'est aussi un remède parce que dans toutes les pandémies, les épidémies, c'est le vaccin qui a souvent terminé la maladie. Mmh. Et donc que la population puisse comprendre ces faits. Et merci pour l'invité parce qu'il vient vraiment de nous éclairer. Alors j'avais une question qui a un peu dévolé, c'est que la première chose que j'aimerais savoir, quels sont les mécanismes que le ministère de la Santé a essayé de prévoir parce que bientôt va commencer la vaccination, mais à ce qui concerne la sensibilisation. Est-ce que c'est seulement l'équipe qui fait la riposte contre le coronavirus qui est uniquement réservé pour la sensibilisation, mais aussi les chaînes comme les médias, la radio, Capi? Est-ce que c'est seulement ces deux chemins, ou bien il y en a d'autres que l'invité puisse essayer de nous parler sur ce point? Mais aussi, le second volet, c'est de savoir où est-ce qu'on peut se faire vacciner si ce n'est pas aux établissements publics et les établissements sanitaires publics. Est-ce qu'il y a aussi le privé? Les établissements privés sont aussi concernés pour aider à la vaccination des personnes. Mais aussi, est-ce qu'on ne peut pas procéder de porte à porte pour aussi essayer d'éviter les embouteillages, pas comme ça c'est souvent vu dans des mouvements pareils. C'était ça ma préoccupation.
Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Béni. Retournons cette fois-ci à Bukavu pour donner la parole à monsieur Patrice. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service. Allez droit au but, hein. Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Oui, merci pour la parole accordée. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. J'aimerais que l'invité nous dise pourquoi l'OMS n'a toujours pas appuyé et approuvé les résultats des chercheurs africains. Mais aussi, étant donné que les échantillons, même aussi les essais cliniques, ont été faits sur les blancs et non sur les noirs, pensez-vous que les résultats aura un impact sur nous, mais aussi merci.
Je vous en prie, monsieur Patrice, nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Bukavu. Docteur Michel Mouvoudi, à vous la parole. Que répondez-vous d'abord à maître Gaston, hein? Un petit rappel sur le choix des personnes qui vont bénéficier de ces vaccins et les sites concernés, parce que c'est pas, on va pas donner le vaccin à la population de toute la République, hein. Il y a des endroits bien ciblés.
Oui. Alors, très rapidement, je crois qu'on avait déjà parlé de CA, mais je vais y revenir parce que de toute façon, on est là pour répéter la répétition et la mère de la science, dit-on. Alors, par rapport aux cibles, d'abord, en termes de provinces, je rappelle, c'est Kinshasa, Congo central, Nord Kivu et le Haut-Katanga. D'accord? La raison est simple, ces quatre provinces regorgent plus de 90% de cas. C'est ce qu'on comprend. C'est les provinces les plus touchées où la circulation du virus est forte. Deuxième élément, les catégories d'âge, ok? Les cibles ou les personnes ciblées, on prend les personnes de plus de 55 ans. Pourquoi? Parce que on a constaté, selon notre distribution des données, que c'est à partir de cet âge-là que les gens font plus de formes sévères ou graves. Deuxièmement, ok, nous prenons les personnes qui ont des facteurs de risque, ce qu'on appelle les comorbidités, ces gens qui ont le diabète, ces gens qui ont l'hypertension, l'obésité ou les problèmes de reins, le VIH. Pourquoi? Parce que ces maladies-là, quand vous les avez, que vous attrapez la COVID-19, vous avez beaucoup de probabilité de développer la forme grave ou sévère. D'accord? Et nous prenons les personnels de santé qui travaillent dans les structures de santé. Pourquoi? Parce que ces gens sont exposés aux malades et on a eu même beaucoup de personnels de santé décédés, tout simplement parce que quand vous recevez quelqu'un, vous ne savez pas qu'il a la COVID, il vous contamine et vous mourrez. Voilà les raisons qui ont poussé à ce qu'on ait ces trois catégories dans un premier temps. J'insiste beaucoup, c'est un choix par rapport à un début, mais il est possible qu'on aille au-delà. Les lieux. J'ai cité les noms. Vous avez les cliniques universitaires de Kinshasa. Vous avez la clinique Galiema, le centre médical de Kinshasa. Vous avez le centre hospitalier Munkolé, l'hôpital Sino-Congolais. Vous avez le centre de santé de référence Vidjana, l'hôpital Saint-Joseph, le centre médical Diamant, l'hôpital HJ. Vous avez l'hôpital médecin de nuit et l'hôpital des Nations Unies. Ça, c'est à Kinshasa. D'accord? Mais en province, à travers les divisions provinciales de la santé, on vous dira les sites qui seront choisis parce que on veut vraiment surveiller cette vaccination. On ne va pas laisser tout le monde la faire. Donc, encore une fois de plus, vous êtes informés, mais les messages vont passer en boucle. C'est pourquoi j'insiste sur la connexion à des messages potables, à des messages officiels qui sont envoyés par le ministère de la Santé. En termes de stratégie, Gaston, d'abord, il faut que tu comprennes que la vaccination n'est pas obligatoire, hein. Elle n'est pas obligatoire. OK? Mais quand on dit qu'elle n'est pas obligatoire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre. Notre souci, c'est que les gens ne sont pas vaccinés. C'est comme au début, on disait aux gens, portez le masque, portez le masque. Il y a des gens qui n'ont pas accepté, mais après, ils l'ont fait quand ils ont été malades ou quand ils ont vu leur proche mourir. J'ai toujours donné cet exemple mondial et ça me fait rire. Je prends l'exemple du président Donald Trump. Il disait vraiment qu'il ne faut pas croire à la COVID-19. Et après, il lui-même est tombé malade ainsi que son épouse. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à mettre le masque. Ça, c'est un modèle que j'aime bien utiliser pour dire, encore une fois de plus, quand on vous dit que ce n'est pas obligatoire, votre santé, c'est votre décision. Vous n'allez pas dire oui, comme j'entends les gens dire, mais commencez d'abord par les sénateurs, commencez par les ministres, et nous après. Mais votre santé n'est pas la santé du sénateur ou du ministre. Le jour où il meurt, on l'enterre. Le jour où vous mourrez, on vous enterre. Il faut prendre la bonne décision pour votre santé. Vous avez vu du reste qu'on a perdu des ministres, qu'on a perdu des sénateurs, qu'on a perdu des députés. Donc, ne soyez pas dans ce débat qui est un débat minimaliste et qui vous dépossède
la décision de votre vie.
Docteur Michel, il y a Mathieu de Béni qui a posé aussi une question très importante. Hein. Il a dit quelles sont les positions prises pour éviter des attroupements dans des sites où il y aura des campagnes de vaccination.
Parce que j'aimerais être très structuré parce que cette émission, j'insiste, n'est vraiment pas comme les autres. C'est une émission très importante, surtout pendant ce temps. Donc j'ai vu mon lot. Excusez-moi vraiment pour que à la fois les autres aussi qui n'ont pas posé des questions comprennent parce que je suis...
On est en même temps coincé par les temps, docteur. Voilà.
Exactement. Donc, sous le coût pris, j'ai déjà répondu. C'est gratuit, mais le coût est pris en charge par le gouvernement et ses partenaires. Et on va mettre en place des outils pour l'utilisation correcte et le suivi des cas qui seront vaccinés. Alors, Mathieu, il faut que tu comprennes que la sensibilisation, c'est tout le monde. C'est pas seulement l'équipe de riposte, c'est pas seulement le PF. Tout le monde peut sensibiliser. C'est comme ça qu'on est en train de produire des messages en langue locale. On va inclure tous les canaux, les églises, les écoles. On va inclure les chaînes. On va inclure tout le monde pour que l'information puisse aller le plus loin possible. Et en RDC, notre stratégie de communication, c'est une stratégie communautaire. Donc, on ne faut pas croire qu'il n'y a que A, B, C, D qui peuvent sensibiliser et pas les autres. Donc, nous invitons toutes les organisations assises communautaires à se joindre. Et dans les choix et les lieux, il verra qu'on a autant les structures privées que les structures publiques. Par exemple, à Kinshasa, HJ, Diamant ne sont pas des structures publiques, ce sont des structures privées. Donc, on va utiliser un modèle de partenariat public-privé pour vraiment assurer que l'ensemble des gens arrivent au lieu le plus proche et se font vacciner. Mais on ne peut pas utiliser la stratégie porte-à-porte pour le moment, parce que le vaccin, il est quand même injectable. Mmh. On voudrait quand même le faire en milieu de soins pour notamment surveiller ce qui va se passer. Et mais si après on se rend compte que la manipulation est maîtrisée, on peut aller à une autre stratégie. Mais pour le moment, on le fera en stratégie fixe, surtout par rapport au suivi des mesures qui seront mises en place en termes de suivi. Et Patrice, les essais cliniques, encore une fois de plus, il faut que les gens comprennent. Quand un médicament sort, un vaccin sort, ça ne veut pas dire que dans chaque pays où on l'utilise, on doit y faire les essais cliniques. Non ! Nous avons combien de médicaments dans ce pays que nous consommons ? Est-ce que le vaccin contre la rougeole, est-ce qu'on a fait des essais cliniques en RDC? Mais quand on sort les médicaments, on choisit ce qu'on appelle les pays candidats. Rappelez-vous, au début, on disait que la RDC était aussi un pays candidat, mais on avait refusé. Mmh. Les gens ont dit non, pas la RDC. Il y a des candidats. Même dans les pays, on choisit des volontaires. Cela ne veut pas dire que si un médicament n'a pas été expérimenté en termes d'essais cliniques dans votre pays, vous ne pouvez pas l'utiliser. Non. Il y a des candidats pays, il y a des candidats personnes, et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, on a beaucoup de médicaments, beaucoup de vaccins que nous utilisons, mais dont les essais cliniques n'étaient pas faits ici. Donc il faut que les gens comprennent ça, c'est un faux débat quand on dit, on n'a pas essayé ici chez nous, mais pourquoi? Non, mais aujourd'hui vous prenez des hormones, vous prenez l'ocytocine, vous prenez le progestérone. Est-ce que vous avez les résultats des essais cliniques en RDC? Pas du tout. Nous nous servons des données des autres pays pour justement dire, sur cette base, l'homme ayant quand même un certain profil assez similaire pour certains points, on peut se dire, ok, ces essais montrent que sur l'homme, voilà ce que ça donne. Et c'est comme ça qu'on peut utiliser. Mais cela ne nous oblige, cela ne nous empêche pas, nous aussi, à documenter notre expérience et potentiellement à revenir un jour avec une autre dose, un autre calendrier vaccinal. Donc il faut que les gens comprennent sur ces questions-là.
Docteur, avant de donner la parole à Julien, qui est le dernier auditeur, hein, est-ce qu'après avoir été vacciné, on va remettre aux bénéficiaires une carte?
Oui, je pense que dans le souci de suivi, Monsieur Tati, on doit vous suivre. Notamment quand vous prenez un médicament, il y a toujours une fiche. On doit savoir que Tati a pris sa vaccination. Je donne un exemple, le 14 mars. Ok, un mois après, ça tombe quelle date? Mais il faut quand même un échéancier pour qu'on ne vous perde pas de vue. Mais aussi, si je donne un exemple, vous avez votre papa qui est déjà vieux. Vous devez quand même regarder son papier pour savoir que non, on a écrit ça, on a dit qu'il avait ça. Donc, encore une fois de plus, ça fait partie des stratégies de routine pour toute vaccination. Il y a toujours un papier de marquage, surtout pour vous suivre, mais aussi, vous pouvez aussi vérifier que cette personne était bel et bien soignée à tel endroit. En cas de problème, on sait à qui s'adresser.
Et ces vaccins, à quel délai, docteur, après avoir été vacciné, c'est pour quelle durée?
En principe, après avoir été vacciné, vous prenez la première. Qu'est-ce que vous avez par délai? Le délai pour la deuxième dose?
Oui.
En principe, je dois vous donner une bonne information, mais il est conseillé de donner entre 4 et 12 semaines, donc entre 1 et 3 mois. Donc si on vous vaccine aujourd'hui, vous venez prendre la deuxième dose 3 mois après. C'est ce qui est dit. Maintenant, je pense que le PEP doit avoir fixé cet intervalle pour que justement les gens reviennent à la deuxième dose. Donc c'est une information que je pourrais vous donner avec détail lorsque je vais pouvoir
avoir accès à la fiche technique de la vaccination. Mais notez que l'intervalle va de 4 à 12 semaines et les experts conseillent que l'intervalle soit un peu large parce que plus l'intervalle est large, le vaccin développe une plus grande efficacité.
Nous retournons au standard pour donner la parole au dernier auditeur. Il s'appelle Julien, il intervient des Goma. Bonjour Julien. Et quelle est la question que vous avez à poser à notre invité rapidement?
Bonjour Julien, bonjour à tous les auditeurs. S'il vous plaît, il n'y a plus de temps, mais je voulais demander à monsieur le docteur, est-ce que ce ne serait pas mieux de faire d'abord une bonne sensibilisation avant d'introduire le vaccin? Parce qu'il y a beaucoup de... Bon, les gens disent, mais ils ne disent pas, tout n'est pas faux. Par exemple, je prends le modèle de la Tanzanie. Est-ce que la Tanzanie avait tort de tout réfuter? Et aussi, après le test de Covid par rapport au vaccin, est-ce qu'il y aura toujours un test de Covid payable à 40 dollars ici chez nous? Et il y aura toujours le vaccin en circulation? Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Nous sommes des voyageurs, nous sommes partis par là, je suis de Bounia, je suis de Goma, etc. Alors, je voulais demander, en deuxième lieu, comment s'y prendre? Le test sera toujours là et on aura le vaccin, la première dose et la deuxième dose. Quelles sont les étapes? Ou alors, quelqu'un qui va ailleurs, comment est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander à quelle étape tu es? Tu as tout simplement le test ou bien tu es à la 30e dose pour qu'on soit accueilli, on te reçoive quelque part? Bon, il n'y a pas assez de temps, mais je voulais aussi demander, est-ce que nous sommes tous affectés au Congo? Nous sommes tous affectés de la même manière dans toutes les provinces.
Merci beaucoup, pour Julien. On n'a plus assez de temps. Là. Docteur Michel Mouvoudi, en 1 minute et demie, qu'est-ce que vous répondez à M. Julien?
Très rapidement, Tati. Donc, Julien, il faut que tu comprennes que pendant qu'on est en train de se préparer pour lancer la vaccination le 15 ici à Kinshasa et un peu plus tard dans les autres provinces, on sensibilise déjà. Mais notez que chaque jour, on a des décès liés à la COVID-19. Nous n'allons pas dire, attendons d'abord qu'on prenne 3 mois pour sensibiliser afin de commencer à lutter contre la maladie. Mais entre-temps, vous comptez les morts et la mort est irréversible. C'est comme ça que même au début, quand on a déclaré la pandémie en RDC, on a commencé directement à prendre en charge les malades. On n'a pas voulu prendre du temps en disant, mais voyons d'abord si les gens vont accepter que la maladie existe. Non, entre-temps, vous comptez des vies perdues, ok? Donc la sensibilisation, elle a déjà commencé, elle va continuer pendant la vaccination et elle va se poursuivre. C'est très important et nous sommes vraiment sur cette piste-là. Deuxièmement, sur la question de test payable, non. Il faut encore une fois de plus ne pas confondre les choses. Être testé et être vacciné, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas tout le monde qui sera vacciné d'abord, retenez ça. Mais c'est pas tout le monde, ce ne sont pas les personnes qui sont vaccinées qui voyagent. Tout le monde voyage. Les enfants voyagent. Okay? Les gens de moins de 55 ans voyagent. Donc, le test doit continuer parce que il n'est pas dit que si vous avez 45 ans, vous n'allez pas voyager. Vous allez voyager, mais vous pouvez être malade et vous contaminer d'autres personnes qui n'ont pas été justement vaccinées. Donc, ces deux stratégies ne s'annulent pas. Maintenant, plus tard, on verra comment est-ce que nous augmentons avec notre taux de vaccination. Et si on pense qu'on a cette immunité-là, collective, ça peut aller. Maintenant, encore une fois de plus là-dessus, M. Tati, la carte jaune qu'on avait même déjà avant, rappelez-vous que chaque fois qu'on voyageait à l'époque, même pas avec la Covid, parce que les gens sont en train de parler...
Oui, sur le vaccin contre la fièvre jaune.
Exactement. Les gens me posent la question, oui, mais il paraît qu'il y aura maintenant un papier pour surveiller. J'ai dit, mais nous avons donné la carte jaune dans ce pays pour toutes les vaccinations. On a eu ça avec la fièvre jaune. Quand vous voyagez, on contrôlait cette carte jaune. Pourquoi ne peut pas revenir?
Docteur Michel, nous rappelons que vous êtes expert en santé publique et membre de la campagne de sensibilisation sur la vaccination contre le coronavirus. Merci d'avoir été les nôtres. À la fois prochaine.
Merci, M. Tati.
Merci. Et c'est par ici que prend fin le magazine Okapi Service, présenté par Tati Mapoukou. Marcel Ngombo a coordonné et réalisé cette émission. Jean-Noël Mokono a assuré la prise de son sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Le rendez-vous est pris pour demain vendredi. Agréable condition d'écoute à toutes et à tous.